Peut-on se remettre d'un malheur ? Évidemment, oui. Évidemment, oui. Évidemment, ce n'est pas facile. Évidemment, on ne s'en remet pas toujours indemne, mais on peut s'en remettre. Et nous avons tous, je dirais, de très nombreux exemples. Et quel que soit le drame, nous trouvons toujours des gens qui ont réussi à s'en remettre. Et quel que soit le drame que l'on subisse soi-même, on trouve toujours aussi d'autres gens qui en subissent un encore plus grand que soi-même et qui ont réussi à s'en remettre. Donc ça, c'est fondamental. Effectivement, il n'y a pas de déterminisme. Rien n'est jamais fichu. Et avec Dieu, tout est toujours possible. Avec Dieu, même le plus improbable peut avoir lieu. Et même celui dont nous aurions tendance à dire, lui, il est fichu, accablé, il ne s'en relèvera jamais, il peut s'en relever. Il y a un verset dans l'Écriture que nous avons lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 10, 13. Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il vous donnera toujours le moyen d'en sortir. Ce verset m'a toujours posé problème, dirais-je. Parce qu'à la fois, j'ai toujours voulu y croire, et en même temps, je me suis quand même souvent posé la question. Parce que si j'ai dit qu'il était possible de s'en sortir, est-il vrai qu'effectivement, tout le monde puisse toujours s'en sortir ? J'avoue que j'ai douté. Parce que pastoralement, j'ai vu trop de gens vraiment anéantis, brisés par l'épreuve, par la souffrance. Et j'ai vu des gens dont vraiment, je me disais, ils ne s'en remettront jamais. Et pourtant, j'ai voulu croire à ce verset en me disant, mais ça doit être vrai quand même, il faut y croire. Et en fait, je crois que mon erreur de jeune pasteur, je dirais, c'était peut-être de ne pas entendre de la bonne manière le mot « se remettre ». Sans doute, comme beaucoup de gens, j'avais en tête l'idée que se remettre, c'était revenir comme avant, faire comme si rien ne s'était passé. Et effectivement, je crois que ça n'est pas possible. Enfin, si, bien sûr, c'est possible pour les petits bobos de la vie, si vous voulez. On les oublie et puis voilà, on passe à autre chose, tout va bien. Pour les grosses difficultés, effectivement, je crois que la question peut être vécue différemment et certainement qu'on ne s'en remet pas indemne, je dirais. Ça laisse toujours des traces. Et donc la question, finalement, c'est bien celle-là, c'est tout dépend de ce que l'on entend par remettre et quelle est la meilleure manière d'apprendre à s'en remettre, justement, et de quelle façon on peut s'en remettre. Je vous disais, pour les petits bobos de la vie, c'est assez simple. Bon, ça nous blesse, ça nous fait du mal, et puis on les intègre, et puis on passe à autre chose. C'est, dirais-je, le métier qui rentre, voilà. Donc le métier qui rentre, le charpentier qui apprend à planter des clous, se tape sur le doigt, ça lui fait mal, mais il apprend à planter des clous. Finalement, notre vie est un peu comme cela. Nos petites épreuves, ou même les moyennes, même parfois les grosses, sont pour nous des choses formatrices. Ce qui ne brise pas nous bronze, dit-on, et cela nous permet d'apprendre certainement la relativité des choses, d'apprendre à mettre en perspective un certain nombre de choses. Ça nous apprend aussi sûrement les attachements idolâtres que nous avons pu avoir. Ça nous permet de recentrer notre existence sur l'essentiel. Donc tout cela est très bien. Et finalement, des petits malheurs, on s'en remet mieux que ce que l'on était avant. Mais les gros malheurs. Eh bien, là, effectivement, je crois que on ne peut pas s'en remettre comme si rien ne s'était passé. Ça me semble une évidence absolue. Vous savez, les théologiens du Moyen-Âge disaient « Le mal, c'est la privation de bien. Donc le mal n'est que de l'absence de bien. » C'est peut-être vrai d'un point de vue cosmique, mais pour l'expérience humaine, il n'en est pas ainsi. Et il y a une consistance du mal. Perdre un enfant, ce n'est pas comme ne l'avoir jamais eu, si vous voulez. Ce n'est pas simplement quelqu'un, un enfant unique qui meurt et tout à coup il se dit « bon, ben, c'est pas grave, il y a des tas de gens qui n'ont pas d'enfants et après tout je suis revenu à la case départ ». Et donc oui, il y a, je dirais, une consistance du mal en tant que tel, qui est une, je dirais, une réalité à laquelle on se heurte, et de tout combat avec le mal, le diable, dirais-je, on ne sort pas indemne. Alors s'en sortir, donc, ce n'est pas revenir en arrière, certainement. S'en sortir, ce n'est pas faire comme si ça n'était pas arrivé. S'en sortir, c'est inventer une nouvelle manière de vivre. C'est-à-dire, la seule solution, je dirais, avec le mal, quand il est très fort, c'est la diplomatie. La seule solution, c'est de composer avec et de négocier. Et là-dedans, nous avons une promesse de Dieu. Cette promesse, elle se trouve dans un psaume. Je suis incapable de vous donner les numéros des psaumes, parce que les psaumes font partie de, je dirais, de ma prière personnelle, quotidienne, de ma méditation, et les versets me reviennent comme ça. Il y a un psaume qui dit « Devant moi, tu as ouvert un passage. Devant moi, tu as ouvert un passage. » Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'effectivement, la promesse de Dieu, c'est que l'on peut toujours être quelqu'un qui sort, quelqu'un qui passe. Justement, d'ailleurs, le peuple hébreu vient du verbe « avar » en hébreu qui veut dire « passer ». C'est ce peuple qui a réussi à sortir de l'Égypte, à traverser la mer rouge, à traverser le désert, à traverser le Jourdain et à entrer dans la terre promise. Le peuple hébreu, c'est justement un peuple qui traverse, un peuple qui avance, un peuple qui sort, un peuple qui ne reste pas sur place. C'est vrai qu'en cours de route, il y a des dommages collatéraux. Et vous savez que dans l'histoire du peuple d'Israël, on dit que pas un de ceux qui sont sortis d'Égypte sont entrés dans la terre promise. Pourtant, c'est le même peuple, mais ce n'est pas les mêmes gens. Et donc, il y a, justement, ce n'est pas exactement le même qui sort de l'épreuve et celui qui entre dans le salut. C'est le même sans être le même. Il y a un changement. L'Évangile et l'ensemble de l'Écriture, je dirais, nous conduit dans une logique fondamentale de l'existence qui est celle de la marche et celle de l'avancée. L'Évangile, c'est toujours avancer, toujours être en marche, ne jamais rester sur place, les bras ballants, en disant « Oh !» L'Évangile, c'est sortir, au risque de sa vie, mais sortir. L'Évangile, ce n'est jamais de revenir en arrière, mais c'est, je dirais, de faire du neuf avec du vieux. L'Évangile, c'est de s'adapter. L'Évangile, c'est l'art d'accommoder les restes. L'Évangile, c'est de savoir faire feu de tout bois. L'Évangile et l'ensemble de l'Écriture, c'est de savoir transformer le mal en bien. Non pas d'annuler le mal, non pas de faire comme si le mal n'avait pas eu lieu, mais de prendre le mal au sérieux et de faire là cette espèce de travail d'alchimiste qui consiste à transformer le plomb en or, de transformer le mal en bien, transformer justement la consistance de ce mal qui me heurte en quelque chose, je dirais, qui pourra aboutir à un bien ailleurs et à un bien qui moi-même me mène ailleurs. C'est ça la puissance, je dirais, de l'Évangile. Un autre passage dans l'Épître aux Romains, très curieux, où Paul dit « Toutes choses concordent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Là encore, ce passage m'a longtemps heurté. « Toutes choses concordent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Tiens, 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 mais moi je connais des gens qui aiment Dieu, auxquels il arrive des choses épouvantables, jusqu'à ce que je comprenne que la question n'est pas là, c'est quoi qu'il arrive. Celui qui aime Dieu trouve toujours en Dieu l'esprit, le souffle, la force, l'énergie qui puisse faire en sorte que ce qui lui fait du mal puisse finalement concourir au bien. Oui, effectivement, Dieu peut tout recréer. Dieu peut tout reconstruire. Dieu est cette puissance comme celle qu'évoque le prophète Ézéchiel quand il voit, vous savez, une vallée d'ossements, et il voit Dieu qui arrive, qui prend les os, qui les reconstruit et qui ressuscite des cadavres à partir des os éparpillés. C'est ça la puissance de Dieu. C'est cette puissance de résurrection, cette puissance qui remet debout, qui remet en marche, cette puissance qui relève, cette puissance qui libère des liens de la mort, de la souffrance, du deuil, de tout ce que vous voulez. Dieu est cette puissance de vie. La résurrection, effectivement, elle est là. Il a été dit souvent que dans le récit de la résurrection de Lazare, souvent il a été dit, et c'est très juste, que la personne qui a été vraiment ressuscitée dans ce récit, ce n'est pas Lazare, c'est Marthe. Et donc certains disent même que c'est le récit de la résurrection de Marthe. Pourquoi ? Parce que Marthe est dans le deuil. Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. » Elle dit, « Oui, je sais, dans la fin des temps. » Non, aujourd'hui, celui qui croit en moi vivra. Et Jésus dit à Marthe, « Crois-tu cela ?» Et Marthe dit, « Je le crois. » Donc c'est elle qui croit et qui vit. Et c'est elle qui était, je dirais, accablée par le deuil. Et c'est elle qui va comprendre qu'il y a en Jésus une puissance de relever. Cette puissance de relever qui sera imagée par cette histoire de Lazare. Celui qui était enfermé, celui qui était dans le tombeau, celui dont on disait « il sent déjà ». Jésus le libère de l'enfermement, le libère de la mort, le libère du tombeau. Et même quand tout le monde nous dit « il ne se relèvera pas, il n'y arrivera pas, il est foutu, il est enfermé », Dieu, lui, peut nous libérer de ces espèces de déterminismes qui veulent nous écraser et nous mettre à terre. Le Christ est bien la résurrection et la vie, pas pour l'autre temps, mais pour nous, aujourd'hui et maintenant. Le Christ est pour nous cette force de résurrection qui peut nous remettre debout, qui peut nous relever, nous réveiller, nous remettre en marche, quels que soient les enfermements morbides dans lesquels nous ayons pu être. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que cela prend du temps. Cela prend du temps, ça c'est vrai. On le voit dans toutes les histoires de la Bible. Regardez Joseph. Joseph, qui donc est, je dirais, vendu comme esclave, jeté au fond d'une citerne, expatrié en Égypte et qui est jeté dans une geôle puante, Joseph finira, je dirais, par sortir de cet état terrible, mais il faudra un certain nombre d'années et beaucoup de vicissitudes avant que cela puisse être possible. Regardez Job. Job, accablé de tous les maux. Effectivement, à la fin de l'histoire, il retrouvera une certaine possibilité de vivre. Il ne sera plus accablé par son malheur. Mais d'abord, il revivra autrement. On ne lui rendra pas ses enfants, on ne lui rendra pas ses terres et ses maisons, il aura d'autres enfants, d'autres terres, d'autres maisons. Ce sera d'une certaine manière un autre Job qui va surgir. Et puis quand on lit tous les 20 ou 30 chapitres de livre de Job, on voit qu'avant d'y arriver, il y aura eu tout un travail considérable, tout un travail où l'on voit Job se révolter, Job rationaliser. On voit Job dans des discussions terribles avec Dieu, avec ses amis. On voit Job dans l'abattement, Job dans la culpabilité, Job avec ses amis, bons ou mauvais, qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, peu importe, ils sont toujours utiles. Mais dans tous les cas, on voit ce Job qui avance et qui finalement arrivera à trouver une nouvelle vie. Mais ça n'est pas étonnant. Tout prend du temps. Tout est dans la vie, tout est processus. Et il n'y a pas de baguette magique pour rien. La nouvelle naissance, ça prend du temps. Élever un enfant, ça prend du temps. Grandir soi-même, ça prend du temps. Toutes les paraboles de l'Évangile, pratiquement, sont des paraboles agricoles. On plante un grain, le plus petit qui soit, il devient un arbre où les oiseaux se perchent. Mais combien de temps entre le grain et l'arbre ? Il faut du temps. Et donc oui, effectivement, il faut du temps. Mais le fait qu'il faille du temps n'empêche pas que cela soit possible. Effectivement, il y a, je vous disais, une résurrection. Cette résurrection, on la trouve aussi dans la résurrection de Jésus. Tiens, voilà, ça c'est important. Les disciples, atteints eux aussi par le deuil, ils ont cru en Jésus, il était vivant à côté d'eux, c'était le Messie. Et voilà qu'il crève comme un n'importe quel bandit de grand chemin et que finalement, on n'est pas plus avancé. Et les disciples vont réussir à faire ce travail. Symboliquement, la Bible dit qu'il leur a fallu 3 jours. Bon, 3 jours, c'est peu pour un deuil, mais c'est pour dire que ça n'est pas immédiat. Le Christ ne ressuscite pas, pour les disciples, dès sa mort. Il faudra un certain temps de latence, 3 jours pour la résurrection, et même pour les disciples, il faudra 50 jours. C'est le temps de la Pentecôte. Pendant 50 jours, les disciples sont abattus. Ils ne font rien, ne disent rien, ils prient, se rassemblent entre eux dans la salle haute. Il ne se passe rien. Et donc là aussi, il faut du temps. Parce que le deuil des disciples va être justement d'apprendre à trouver l'essentiel, de trouver le cœur de l'affaire qui n'est pas atteint par le mal et d'être capable de faire de ce cœur qui n'est pas atteint par le mal la base de sa vie. Et donc effectivement, voyez-vous, le but de ce travail de deuil, je dirais, ce n'est pas d'oublier. Bon, l'homme de la rue dit « Oh, ben, on n'oublie pas, on s'habitue ». Oui, mais c'est, je crois, un pis-aller. Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux que cela. Et donc, le but, ce n'est pas d'oublier. Mais au contraire, c'est peut-être de faire comme les disciples et comme Job avec ses amis, c'est d'en parler. Et progressivement, de trouver, justement, en quoi on peut, comment on peut transformer cette source d'énergie incroyable, je dirais, que génère en nous le deuil, cette source d'énergie, je dirais, négative qui tourne en nous, d'apprendre à la canaliser pour l'orienter vers la vie et non vers la mort ou vers des choses inutiles. Et ainsi, on voit que les disciples, eh bien, au lieu d'occulter la mort du Christ et au lieu d'occulter la croix, ils l'ont transformée en signe d'espérance. Et cette mort de Jésus est devenue pour eux un tremplin leur permettant d'aller ailleurs. Et c'est, je crois, la chose la plus extraordinaire que l'on puisse faire avec le mal. Finalement, l'épreuve, c'est comme, je dirais, comme la mue pour un animal. C'est quelque chose de difficile et de long, mais on peut sortir différent. On sort différent, plutôt. Et je pense que même par rapport à l'épreuve, on ne sort pas forcément moins bien. Au contraire, on sort mieux. Alors, mieux dans un sens, on perd des choses en route, évidemment, mais je crois qu'on gagne quelque chose au passage, ou on peut gagner quelque chose. C'est la même chose aussi, vous savez, avec le récit de Jacob. J'aime beaucoup ce texte de Jacob qui lutte avec l'ange. Et Jacob, dans sa bagarre avec l'ange, en sort boiteux, mais béni. Boiteux, mais béni. Ça, c'est extraordinaire. Nous, nous voudrions tout. Nous voudrions sortir bénis sans être boiteux et nous voudrions tout apprendre, tout savoir sans jamais souffrir. Mais ça, c'est impossible. Jacob, effectivement, sort béni mais boiteux. Et c'est là la chose la plus extraordinaire, je crois, que l'on doit accepter dans notre vie, c'est que finalement, ça peut être une grande et belle chose. Parce que le but de l'existence, ce n'est pas de guérir de tout. Le but de l'existence, ça n'est pas, comme veut nous le faire croire, je dirais, la société moderne, que tout aille bien, d'être beau, d'être en parfaite santé, de n'avoir aucun souci, ni d'argent, ni de logement, ni de métier, ni de famille, ni de divorce, ni d'enfant, ni de rien. Le but de la vie, ça n'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et avec une espèce de, je dirais, d'idolâtrie du perfectionnisme. On n'a pas le droit aujourd'hui d'être borgne. Quelqu'un qui se promène avec une jambe de moins, c'est obscène, c'est interdit d'être moche, d'être pauvre, ou même au chômage, on n'ose pas le dire, c'est quand même incroyable. Ou même les gens qui subissent des épreuves n'osent pas le dire, on le cache, parce que ça fait peur aux gens. Ça, c'est très embêtant. Je pense au contraire qu'on a le droit de ne pas être tout bien, tout beau, tout parfait, tout lisse, je dirais. On a le droit de ne pas être sans aucun problème. Le but de l'existence, ce n'est pas, comme le disaient certains philosophes grecs, d'être comme un lac sans rides, si vous voulez. Le but de notre existence, c'est d'être au contraire un ferment bouillonnant dans ce monde. C'est d'être au contraire quelque chose dans ce monde qui dégage de l'énergie. Quelque chose qui transmet, qui agit, qui transforme. Et il est vrai que, je dirais, les gens qui ont souffert sont souvent ceux qui ont su apporter le plus au monde. Ou plutôt, prenez-le dans l'autre sens, les gens qui ont apporté le plus de choses au monde sont souvent ceux qui ont le plus souffert. Ça, c'est vrai. Peut-être que ceux qui ont beaucoup souffert savent plus apporter aux autres que ceux qui n'ont pas souffert. C'est vrai dans la musique, c'est vrai dans l'art, c'est vrai aussi, je crois, dans la vie elle-même. Mais ça n'est pas toujours évident, parce que c'est vrai à une condition. La condition, c'est que l'épreuve ne renferme pas sur soi-même. C'est ça, je crois, l'enjeu, le déclic, si vous voulez. Le danger, c'est que l'épreuve renferme sur soi-même. Le danger, ce serait que l'épreuve endurcisse au lieu d'attendrir. Et donc, il y a dans l'épreuve une tentation. Dans la Bible, il y a un seul mot pour dire épreuve et tentation, peirasmon. C'est assez intéressant. Et donc, dans la demande du Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, ça peut être aussi ne nous soumets pas à l'épreuve, c'est le même mot. Et ils ont vu juste. Dans toute épreuve, il y a une tentation. La tentation, c'est de s'enfermer dans l'épreuve. La tentation, c'est justement de succomber dans l'épreuve. Ne nous laisse pas succomber dans l'épreuve ou dans la tentation, dit le Notre Père. La tentation, c'est justement de ne pas être capable de réorienter cette énergie vers l'extérieur, mais de la laisser détruire, se détruire de l'intérieur. Or, la prière du Notre Père, justement, nous apprend beaucoup de choses. D'abord, elle nous dit, ne nous soumets pas à l'épreuve, ne nous soumets pas à la tentation. Et elle nous dit que la volonté de Dieu n'est pas qu'on reste dans l'épreuve, mais qu'on en sorte. Ça, c'est fondamental. Fondamental. Fondamental contre une certaine conception doloriste de la religion qui a été prêchée parfois. Certains prédicateurs qui ont voulu nous faire croire que pour être un bon chrétien, il fallait être triste, être accablé, ne pas être trop joyeux, ne pas danser, ne pas crier de joie, ne pas être guilleret. Oui, il y a eu une valorisation morbide, je dirais, de la souffrance ou de la douleur en soi. Or, on a le droit d'être heureux. Ça n'est pas évident, c'est vrai. Et même humainement, si on voit une veuve qui se remarie un peu vite, on dit « Ah !» Mais non, on a le droit d'être heureux. Et on a le droit de ne pas rester accablé dans le deuil. On a le droit de ne pas, être celui qui me présente l'image d'une souffrance terrible, comme s'il était indécent de vivre ou de s'autoriser de vivre quand on a subi un malheur. Eh bien, on a le droit. Et on n'est pas obligé, je dirais, de porter le fardeau de son deuil toute sa vie. On n'est pas obligé, celui qui a subi un divorce n'est pas condamné à vivre solitaire et misérable toute sa vie. Il a le droit de se remarier, point. C'est comme ça, si vous voulez. Je pense que le fait d'ajouter de la peine à la souffrance n'arrange rien à l'épreuve. Au contraire, ça lui donnerait raison d'une certaine manière. Et donc, il n'y a pas de honte ou de culpabilité à s'en sortir ou à vouloir s'en sortir. Il n'y a pas de honte à s'amuser, pas de honte à être heureux. J'ai le droit d'être heureux. Et ça, ce n'est pas évident. Ni par rapport au regard des autres, ni par rapport à ceux qui souffrent. Vous savez que ceux qui sont sortis des camps de concentration se sentaient coupables de vivre par rapport à ceux qui étaient morts. Eh bien là, nous devons, je crois, nous, dans nos temples, prêchez la grâce. Vous êtes sauvés par grâce. Votre vie vous est donnée par grâce. Donc vous avez le droit de vivre. Vous n'avez pas à justifier de votre vie. Vous n'avez pas à prouver qu'il serait légitime que vous soyez en vie et pas les autres. C'est comme ça, vous vivez, ça vous est donné, profitez-en. Ce que nous demande Dieu, c'est d'accepter la grâce. Et puis il y a aussi se délivre-nous du malin dans le Notre Père. Ce n'est pas délivre-nous du mal, c'est du malin. C'est-à-dire que le texte original du Notre Père personnifie le mal, non pas le mal en général, le malin. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce que le Notre Père, voyez-vous, justement, extériorise le mal. Et il dit, le mal, ce n'est pas un mal qui viendrait de moi. Le mal, c'est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'objectif, qui ne m'appartient pas. Ça l'extériorise comme venant d'ailleurs que de nous. Donc, je ne suis pas coupable du mal qui m'arrive. C'est ça que cela veut dire. Peut-être que je le suis, peut-être que je ne le suis pas, on est tous coupables de tout, mais théologiquement, je ne suis pas coupable. Ce n'est pas de ma faute, le mal est extérieur, il est, je dirais, fait par le malin, et je demande à Dieu de me libérer de ce malin, non pas du mal dont je suis coupable, mais d'un mal qui justement ne vient pas de moi. Parce que là, il y a effectivement ce sentiment de culpabilité terrible qui existe dans tous les deuils, dans toutes les épreuves, dans toutes choses. Et la première chose à gérer pour s'en sortir, c'est d'arriver à éradiquer ce sentiment de culpabilité, d'accepter la grâce, accepter de vivre pardonné. C'est essentiel, ce sont les premiers pas. Accepter de ne pas se sentir coupable, accepter même de pardonner, se savoir pardonner et être capable de pardonner. C'est pourquoi il faut venir à l'Église et s'entendre dire, au moins une fois par semaine, « Vous êtes pardonné par grâce ». Se replacer, vraiment comprendre, arriver à intégrer cette notion un peu intellectuelle que Dieu nous pardonne, que Dieu est un Dieu de grâce, oublier tout le reste et ne garder que cela. Sans grâce et sans pardon, il n'y a pas de vie possible. Aucune vie possible. Et le pardon, c'est pour soi. Je suis pardonné. Et le pardon, c'est pour les autres. Je pardonne. Sans ces deux mouvements, là, il n'y a aucun moyen de sortir de quelque épreuve que ce soit. Il faut apprendre, et c'est difficile, mais il faut s'en persuader. Et se répéter tous les jours, à toute heure, à toute minute, Dieu me pardonne, et je suis sous la grâce. On sait, vous savez, que ceux qui ont subi des victimes de chauffards alcooliques de la route, etc., croient qu'ils ne trouveront le repos que le jour où ceux qui sont les responsables de leur deuil seront condamnés publiquement. Eh bien, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Oui, le jugement a lieu, il croit que tout va s'arranger, il est condamné, envoyé en prison, même condamné à mort, si vous voulez, et la souffrance reste. C'est extraordinaire. Le seul moyen de se libérer de cette souffrance, c'est de pardonner. Et donc, voyez-vous, je crois que Dieu veut que nous vivions. Mais la résurrection, ce n'est pas l'annulation de la mort. Ça, c'est ce grand chapitre de Paul en 1 Corinthiens 15 sur la résurrection. Et il dit, on ne ressuscite pas comme on vivait autrefois. Il y a un corps terrestre, il y a un corps céleste. Autre est le corps de la résurrection. Le corps de la résurrection est différent. C'est aussi l'histoire de la guérison du paralytique. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Toujours été frappé de cela. Pourquoi est-ce que le paralytique doit se charger de son lit pour marcher? Nous, moi, ce que je voudrais, c'est que si j'ai un problème, je puisse ensuite me débarrasser de mon problème et marcher sans mon problème. Mais ce que Dieu lui permet de faire, c'est de marcher en portant son lit, mais de marcher. C'est-à-dire que le vrai miracle, il est là. Avant, c'est le lit qui porte le malade, et après, c'est le malade qui porte le lit. Et il y a une grande différence, parce que le malade n'est plus un malade. Il devient un sujet qui supporte une maladie. Ce n'est pas du tout pareil. Il redevient le sujet de sa vie. Et donc c'est bien cela, charge-toi de ton infirmité, charge-toi de tes soucis, de tes deuils, de tout ça, on s'en fiche, tu les portes comme tu porterais ta croix et tu te mets en marche et tu avances. Parce que ça c'est possible, toujours possible, et ça c'est l'essentiel, d'avancer, d'agir, de parler, de créer, d'aimer, de partager. Et ça on peut toujours le faire. Même si on est un peu malade du corps ou de l'âme, même si on est vieux, même si on souffre, même si on pleure, on peut toujours aimer, pardonner, transmettre, accueillir, offrir. C'est ça la grandeur de notre vie. Parce qu'effectivement, il ne faut pas croire, hein, mais la vie, ce n'est pas le club Méditerranée. Dieu n'est pas celui qui nous garantirait nécessairement le confort, pas de soucis, pas de problème, tout va bien. Mais la vie, c'est de lutter, c'est de combattre, c'est de construire, même au prix de son confort. Et la grandeur de l'existence ne réside pas dans notre absence de souffrance, La grandeur, elle réside dans ce que nous donnons aux autres. On ne grave pas sur les murs du temple les noms de ceux qui ont passé l'été dernier au Club Méditerranée en hôtel 4 étoiles. On y met ceux qui ont souffert à la guerre de 14, ceux qui ont donné leur vie. C'est-à-dire que c'est ça, effectivement, l'essentiel. Ceux qui ont libéré le pays. On y met le souvenir des héros. Et le christianisme aussi, lui, valorise les martyrs. Il a valorisé ceux qui ont souffert, ceux qui ont témoigné dans ce monde d'une espérance, par-delà leur souffrance, qui justement est quelque chose de plus important que leur confort, que leur petit bonheur, que leur bonheur petit bourgeois, auquel nous aspirons finalement tous un petit peu, mais à tort. Les héros, ce ne sont pas, je dirais, les petits bourgeois qui vivent confortablement dans leur petit pavillon Bouygues en banlieue parisienne. Ce n'est pas ça l'idéal du chrétien. L'idéal du chrétien, je dirais, c'est le martyr. L'idéal du chrétien, c'est les 12 apôtres, dont pas un n'est mort de mort naturelle et tranquille. Effectivement, les plus grandes choses dans ce monde ont été faites par des gens qui souffrent. La question n'est donc pas de souffrir ou de ne pas souffrir, mais la question, c'est de savoir réinvestir l'énergie de la souffrance pour la remettre au service des autres, au service de la paix et de la joie même. Parce que oui, il peut y avoir de la joie même dans la souffrance. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, vous savez. On peut rire d'un œil et pleurer de l'autre. Après, c'est une question de regard, de verre à moitié plein ou de verre à moitié vide. Le chrétien, lui, il regarde, quand il y a un verre à moitié quelque chose, il le regarde comme un verre à moitié plein. Et même s'il y a une seule goutte d'eau dans un verre vide, le chrétien regarde la goutte d'eau et il dit « Je crois à l'eau et non au vide ». Et puis Jésus, qu'est-ce qu'on en sait de sa vie ? Quel drame secret se cache dans les années obscures de Jésus, dans les 30 années dont on ne sait rien ? Pourquoi se présente-t-il à 30 ans, sans femme, sans enfant, sans famille, alors que c'est impossible dans le judaïsme de l'époque de vivre comme ça, tout seul ? Certains ont prétendu que forcément il avait dû être marié, peut-être a-t-il perdu son épouse, peut-être a-t-il perdu son enfant, mais on n'en sait rien, mais on s'en fiche ! On s'en fiche, ça n'est pas la question. Mais il est très possible que Jésus ait vécu beaucoup plus de choses qu'on imagine. Et même Calvin, ce grand réformateur, ça on le sait, lui qui a vu mourir sa femme et son seul enfant, unique. Alors, est-ce que Calvin s'est remis de son deuil ? Tiens, on ne s'est jamais posé la question. Parce que ça n'est pas la question. Il a mis sa vie au service d'autre chose que de lui-même. Comme les poilus en 14, comme les martyrs, comme les apôtres. Et c'est ça qui fait la grandeur, je dirais, de cette nuée de témoins qui sont la lumière du monde. Alors tout cela suppose évidemment un travail important de soi-même, qui est long et difficile. Comme effectivement Pierre sur l'eau, et qui dit à Jésus, mais qu'est-ce qui empêche que je puisse sortir de ma barque, justement, et pour avancer en marchant sur la mer, en marchant au-dessus de tout, ce qui pourrait m'engloutir. Jésus dit rien, viens. Et tant que Pierre marche vers le Christ, tant qu'il a un idéal, tant qu'il ne se regarde pas lui-même, il avance